Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Nous avons vu en étudiant les Écritures que Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais en début d'automne, vers la mi-septembre de l'an 4 avant notre ère. Lorsqu'il naquit, cette nuit-là, un ange apparut aux bergers, et conformément aux instructions qui leur avaient été données, ils le trouvèrent couché dans une crèche. Jésus naquit dans une étable à cause de l'édit de César Auguste et des Juifs qui s'assemblaient à Jérusalem pour la troisième saison des fêtes annuelles de l'Éternel. Plusieurs semaines après la visite des bergers, Jésus fut amené par ses parents au temple. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, la loi que l'Éternel donna par l'intermédiaire de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. En effet, le livre du Lévitique enseigne « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier. Elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. 40 jours devaient s'écouler avant que Marie puisse se rendre au temple à Jérusalem avec Jésus, son fils aîné. Lorsque Joseph et Marie revinrent à Bethléem, ils furent hébergés dans une maison. C'est là que les mages découvrirent le petit enfant et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les visites des bergers et des mages eurent lieu à des moments différents. Celle des mages se situa après que ses parents eurent présenté Jésus au temple, tandis que celle des bergers se situa peu de temps après la naissance de l'enfant. Ensuite, la famille se retira en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, et après leur retour, Joseph et Marie résidèrent à Nazareth et non plus à Bethléem. Jésus était-il juif? Oui, car il descendait de la tribu de Judas, comme le confirme l'apôtre Paul qui déclare « Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas ». Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est appelé le lion de la tribu de Judas. Une prophétie du livre de la Genèse mentionne que le prince ou le Messie sortirait de la tribu de Judas. Non seulement Jésus était juif, mais il était de la lignée royale de Judas. De nombreux passages bibliques le mentionnent comme étant fils de David. Jésus était loin d'être un homme efféminé, comme il est trop souvent dépeint. Il avait travaillé avec Joseph, son père nourricier, qui était charpentier, et lui-même était charpentier. Il exerça probablement ce métier jusqu'au moment où il débuta son ministère. Il devait être habitué aux travaux lourds. Sa musculature devait être développée. Travaillant la plupart du temps à l'air et au soleil, il devait avoir un teint hâlé. Il devait être de taille moyenne, dynamique et robuste. Il ressemblait aux autres juifs de son époque, puisqu'à certains moments, il passa inaperçu au milieu de la foule. D'ailleurs, Judas fut obligé de le dénoncer par un geste. Il l'embrassa pour désigner à ses ennemis qui il était, pour qu'il puisse l'identifier parmi ses disciples. Jésus s'est-il opposé à la loi divine ou à la loi des hommes, tant que celle-ci n'est pas en contradiction avec la loi divine? Si ce fut le cas, alors il a péché et il ne peut pas être le sauveur de l'humanité. En parlant de lui, l'apôtre Paul écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La loi définit le péché, voilà pourquoi le Christ ne l'a point aboli. Jésus était-il un homme violent? Il chassa le bétail et les changeurs du temple. À 2 reprises, il chassa le bétail et renversa les tables, ordonnant à leurs propriétaires de sortir du temple. L'apôtre Jean décrit la première occasion, qui se situe lors de la saison de la Pâque, et les autres évangiles relatent la seconde occasion, qui eut lieu lors du dernier voyage du Christ vers Jérusalem. L'apôtre Jean écrit « Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple, sous les portiques et dans les parvis, les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez ou enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Jésus chassa les vendeurs. Comment fit-il? Avec des cordes, il fit un fouet avec lequel il fit sortir le bétail et, bien entendu, leurs propriétaires les suivirent pour ne pas les perdre. Remarquez qu'il n'ouvrit pas la cage des pigeons. Ceux-ci se seraient échappés. Toutefois, il ordonna aux vendeurs de les ôter du temple. Le Christ avait le droit d'agir de la sorte. N'oublions pas que Nicodème, un chef des Juifs, docteur de la loi, avait déclaré à Jésus « Rabbi, signifiant maître, nous les officiels du Sanhédrin, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Les membres du Sanhédrin reconnaissaient que Jésus avait l'autorité de Dieu, une autorité égale à celle des anciens prophètes. Voilà pourquoi ils lui donnaient le titre de rabbi, maître ou docteur. Il avait donc autorité pour éliminer la corruption du temple de Dieu. Ce faisant, il mettait en pratique les lois civiles et religieuses. Jésus fit cela à deux reprises. Or, s'il avait transgressé la loi, les gardes du temple l'auraient arrêté. Certains affirment que Jésus et ses disciples transgressèrent la loi en arrachant des épis de blé un jour de sabbat. L'apôtre Matthieu écrit « En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Ici encore, il ne s'agit pas d'un acte illégal. La loi exigeait du propriétaire qu'il laisse une partie de sa récolte sur pied pour le voyageur affamé. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. » Ce que les disciples firent est autorisé par la loi. Ils étaient affamés, ils ne firent aucune récolte. Ils se contentèrent de froisser les épis dans leurs mains et de les manger. Jésus pouvait-il guérir un jour de sabbat, comme cela lui arriva de faire? Étant parti de là, Jésus entra de nouveau dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur le moyen de faire périr. Cette guérison n'était pas un travail, par conséquent, elle était permise. D'ailleurs, ces pharisiens voulaient voir si Jésus allait transgresser une de leurs traditions. Ils ne lui firent d'ailleurs aucun reproche. Si Jésus avait transgressé la loi, il l'aurait lapidé. Il n'en fit rien, et ses miracles ne lui furent pas reprochés lors de son arrestation. Jésus a-t-il insulté le souverain sacrificateur au moment de son interrogatoire, comme certains le prétendent? Voici ce qu'écrit l'apôtre Jean dans son évangile. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Veuillez remarquer que pas un mot n'est prononcé par le souverain sacrificateur. C'est lui qui n'a pas pris la peine de répondre à ce que Jésus lui a dit. En fait, le Christ avait répondu d'une manière directe à une question insidieuse, et un huissier orgueilleux gifla Jésus. C'est Jésus qui fut insulté dans cet épisode, et malgré cela, sa réaction fut calme et réfléchie. « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Aucune réponse ne lui fut donnée, et pour cause. On a dit tant de choses sur Jésus, tant de choses qui sont fausses. À quoi sert la foi que vous avez en Christ si vous placez votre foi en un Dieu qui ne correspond pas à la réalité ? Vous adorez peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Votre conception du sauveur de l'humanité est-elle conforme à la réalité ? L'idée que vous vous faites de ce personnage divin vous éloigne de lui au lieu de vous en rapprocher. Vous vous créez un Dieu selon vos propres pensées. Si c'est le cas, il s'agit d'idolâtrie. Rappelez-vous que la Bible met en garde contre un autre Jésus ou un autre évangile. Lisez donc le premier chapitre de l'épître de Paul aux Galates et voyez l'anathème ou la malédiction qu'il prononce sur ceux qui acceptent un autre évangile. Si votre Jésus et votre évangile diffèrent du message simple et clair de la Bible, alors vous vous trouvez dans une mauvaise posture, quoi que vous en pensiez. Il n'y a qu'une seule vérité. Allez-vous prendre la peine de la découvrir? L'apôtre Marc écrit, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. » L'expression « à la maison » peut être rendue par « chez lui », comme cela a été traduit dans diverses versions. À d'autres moments, il pouvait s'agir encore de la maison de Pierre, comme l'écrit Matthieu. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. L'apôtre Pierre avait donc une maison, et il avait une épouse. C'est ce que confirme l'apôtre Paul. La Bible est très claire sur ce point. Certains citent un passage de l'évangile de Luc pour affirmer que Jésus n'avait aucune demeure. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » C'est au cours de ce voyage, depuis Capernaum jusqu'à Jérusalem, que Jésus éprouva des difficultés pour trouver un logement et y passer la nuit. Pourquoi ? Il descendait vers Jérusalem, et c'est parce que les Samaritains avaient leur lieu saint, le mont Gerizim, rival de Jérusalem, qu'ils refusèrent de le recevoir. Jésus n'avait pas les cheveux longs comme on le représente. Il a personnellement enseigné l'apôtre Paul et l'a inspiré d'écrire « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ?» Jésus n'est plus dans une crèche, ni sur une croix. Il est ressuscité depuis longtemps, il est vivant et a recouvré toute sa gloire.